Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
L'épopée des musiques noires, nous essayons autant que faire se peut de refléter la diversité artistique et culturelle de la diaspora africaine dans le monde. Il arrive cependant que nous omettions certaines régions de la planète et certaines traditions ou patrimoines ancestraux. Nous n'évoquons par exemple que trop rarement l'héritage sonore de l'île Maurice, terre cosmopolite qui méritait bien une émission. Jerry Leonide, soyez le bienvenu.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Vous êtes pianiste, donc mauricien, compositeur, interprète de grands talents et vous nous présentez aujourd'hui Source of the Ocean, votre second album qui va nous permettre de mieux vous connaître et de donner un nouvel éclairage à cette île de l'océan Indien, longtemps colonisée par les Européens et indépendante depuis 1968.
C'est ça.
D'abord, tentons de dessiner les contours de la culture mauricienne. Diriez-vous qu'elle est africaine, européenne, indienne ?
Elle est tout ça à la fois, parce que, ben, comme souvent avec l'histoire de la colonisation, chaque peuple qui a habité l'île Maurice l'ont façonné à sa façon. Je prendrai que deux exemples, avec l'esclavage, avec la venue des esclaves amenés par les Français, et bien sûr, plus tard, les Anglais, eux, avec leur étroite collaboration avec l'Inde, qui ont ramené les Indiens. Donc c'est tout ça à la fois. Oui.
Est-ce que votre musicalité est le reflet de cette histoire mauricienne métisse ?
Ben, on va dire malgré moi, je peux pas m'y empêcher. C'est-à-dire que finalement, c'est tout ce que je fais, tout ce que j'essaye d'entreprendre, et ben, ça transpire cette pluralité dans ma musique, dans ce que j'écris, voilà. Donc oui, je pense.
Ouais. C'est quelque chose de naturel, d'inné presque.
On va dire, malgré moi, je fais pas exprès.
Comment et où avez-vous commencé à jouer du piano ?
J'ai commencé assez jeune, avec l'aide d'un père musicien, donc ça aide toujours, d'une famille musicienne en fait, voilà. Donc j'ai pas mal d'oncles aussi qui jouaient de la musique à l'époque. Donc j'ai commencé à l'âge de 5 ans avec l'aide de mon père qui est guitariste.
Sur l'île Maurice ?
Sur l'île Maurice, oui. Donc je suis né et j'ai grandi à l'île Maurice. Oui.
Vous êtes né en 1985.
C'est ça.
Vous n'avez donc connu que l'île Maurice indépendante.
Oui.
Est-ce que cela vous donne un avantage sur vos aînés pour traduire toute la diversité culturelle de cette terre ? En d'autres mots, êtes-vous plus libre d'exprimer vos racines métisses ?
Oui, carrément. C'est-à-dire que je n'ai pas de stigmate. C'est-à-dire que j'arrive, moi, dans un pays qui se cherche encore, bien sûr, qui se forge, qui se construit. Mais on va dire que je fais partie de cette construction et je n'ai pas d'a priori ni de rapport de force avec qui que ce soit d'autre sur la planète. Donc, je suis très fier d'être mauricien. Souvent, d'ailleurs, on a ce petit bise-bise avec les Réunionnais par rapport à cette situation. Mais voilà, on a cette spécificité. Et moi, je n'ai pas connu autre chose, comme tu dis. Et j'en suis fier d'un côté. Et puis, de l'autre côté, ça me rend aussi libre, bien sûr.
Quand on écoute Source of the Ocean et même The Key, votre précédent album, on entend comme une revendication d'affirmer une identité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, pas que, mais vraiment revendiquer, c'est plutôt faire exister. Voilà, je pense, comme tu l'as dit dans ton introduction, on en parle malheureusement pas assez. Donc tout le monde, quand on parle de l'île Maurice, on voit cette superbe destination touristique, c'est très bien, c'est très beau. Certes, c'est très beau chez nous, mais il y a aussi justement une culture qui ne demande qu'à être découverte et comprise, surtout parce que c'est souvent aussi mal compris. On assimile Maurice à l'outre-mer ou que sais-je. Donc pas que, mais en même temps, voilà, c'était important pour... Ben, je me place en tant qu'artiste mauricien pour faire justement hisser ce drapeau et faire exister culturellement ce pays qui est magnifique.
Nous avons ouvert cette émission avec Zulu Warrior. C'est la proximité de l'Afrique australe qui vous a inspiré ce titre ?
Bien sûr. Et nous-mêmes, en tant que Mauriciens, on a beaucoup de racines qui partent du Cap de Bonne-Espérance jusqu'en haut au Kenya. Et toute cette côte, tous ces peuples africains, on retrouve des éléments de langage, de culture. Notre propre tambour, qu'on appelle la ravane, vient du Mozambique, par exemple, avec tout ce... Voilà, la Madagascar, donc toute cette partie-là de l'Afrique, est bien sûr très liée à l'île Maurice. C'est exactement ce que je veux refléter dans ce morceau.
Dans votre nouvel album, il y a un titre qui mérite un décryptage historique, c'est Chagos. Oui. Rappelez-nous d'abord la destinée de cet archipel.
Donc oui, alors Maurice est une indépendance... Mais Maurice n'est pas qu'une île. Maurice a plusieurs territoires dans l'océan Indien, notamment celle qui est encore rattachée par exemple comme l'île Rodrigue, qu'on appelle la petite sœur de l'île Maurice, donc qui est un territoire mauricien, mais il y avait aussi d'autres territoires mauriciens. Et finalement, ce qui s'est passé dans le processus d'indépendance, les Anglais ont, d'un commun accord, ont récupéré un territoire qu'on appelait les îles Chagos. Normalement, c'était pour une période très définie dans l'histoire. Maintenant, l'île Maurice est prête et réclame cette souveraineté de ce territoire. Mais l'histoire, finalement, on se rend compte après tant d'années que ça s'est pas très bien passé, le fait, la façon dont les Anglais se sont appropriés ce territoire. Et c'est un peu cette histoire que je raconte.
Donc, cette situation plutôt contestable au regard du droit international a été à nouveau étudiée le 22 juin 2017 à l'ONU pour définir les règles du processus de décolonisation par le Royaume-Uni.
C'est ça.
Mais depuis, c'est un statu quo qui s'impose aux Chagossiens. Est-ce que vous êtes optimiste sur une solution démocratique et pacifique de ce hiatus ?
Oui, alors en tant que, on va dire, humaniste et artiste, voilà, je ne peux pas prôner justement le conflit, mais il faut être ferme. Voilà. Donc je prône, bien sûr, j'espère que ça sera réglé diplomatiquement, mais il faut être ferme. Comme l'ont été les Chagossiens au départ, par exemple, où j'apprends peut-être aux auditeurs que maintenant, il n'y a pas de Chagossiens qui sont mauriciens. Ils se sont tous attribués la nationalité britannique parce que le tribunal a condamné le Royaume-Uni à leur donner un genre d'indemnité. Parce que finalement, cette opération avait créé des apatrides. Ils ont beau être mauriciens et finalement la cour a reconnu qu'il fallait leur donner le statut, de leur donner une nationalité. Maintenant, ils sont tous britanniques. D'ailleurs, une très très grande communauté qui peut-être qui nous écoute en Angleterre de Chagossiens que je salue. C'est un combat pacifique, certes, mais ça reste quand même un combat. Il faudrait être ferme et ça reflète aussi ma démarche artistique. C'est d'envoyer ce message un peu partout dans le monde et faire germer des idées. On ne va pas dire rallier des gens à notre cause, mais voilà, faire entendre cette histoire. Et peut-être que voilà, de ce fait, on va contribuer à ce que la solution soit trouvé très rapidement.
Est-ce que vous pensez que votre composition Chagos est une œuvre politique ?
Non, je fuis tout ce qui est politique. Pour un artiste, moi, je pense que moi, j'ai vocation à ne pas être politique. Par contre, c'est engagé. Voilà, je prends une position, comme je vous disais, malgré moi, par rapport à mes origines, qu'il faut voilà, rendre justice aux Chagossiens et on va dire un témoignage, voilà, tout simplement.
Cette mélodie a en tout cas le mérite d'exister et d'interpeller. Gageons que sa diffusion sur les ondes attirera l'attention du public et de quelques décideurs haut placés.
Thank you.
Chagos, l'appel de Jerry Leonide à une réévaluation de l'histoire singulière de l'archipel des Chagos. Jerry Leonide, parlons un peu de vous. En quelques années, vous avez reçu une multitude de prix à Nottingham, Paris, Montreux. Lequel a le plus de signification pour vous et pourquoi ?
Ils sont tous très importants pour moi parce que ça fait partie d'un cheminement, mais on va dire que le concours de Montreux, c'est quelque chose qui a quand même changé ma vie à pas mal de niveaux, de par son ampleur médiatique et puis la générosité, on va dire, du Montreux Jazz Artist Foundation. Le gagnant du concours reçoit quand même beaucoup de récompenses et je me suis servi de ces récompenses pour, on va dire, lancer ma carrière. Donc j'aurai toujours une petite pensée pour le Festival de Jazz de Montreux.
Pourquoi ce festival est si prisé des artistes selon vous ?
Je pense que c'est par rapport à son histoire. D'ailleurs sur un album il y a un morceau qui s'appelle A Little Man's Dream. À mon sens, j'ai essayé de raconter aussi cette histoire. C'est un festival qui a commencé, on va dire, avec quatre poteaux et une bâche sur le lac Léman par ce petit monsieur qui s'appelait Claude Nobs. Et en 50 ans d'histoire, ils ont attiré tous les plus grands jazzmen de la planète. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est quasiment le Graal pour un artiste de jazz d'être programmé dans ce festival de jazz.
Ouais. Sans Montreux, vous n'auriez pas fait paraître votre premier album ?
Je pense, parce que c'est dur. Voilà, les musiciens à travers le monde qui nous écoutent savent à quel point c'est très dur. Ça coûte de l'argent, ça demande beaucoup de moyens pour pouvoir se lancer et faire un album. Et avec leur aide, ils m'ont déjà financier. Et puis leur réseau, c'est un festival. Et derrière ce festival, il y a aussi une association qu'on appelle le Montreux Jazz Artist Foundation, une fondation pour être précis, qui aide l'émergence de nouveaux artistes, qui organise des événements annexes au festival. Et ils sont d'un soutien sans faille. Et pour moi, ils ont été d'un soutien sans faille.
Est-ce que ce premier disque, The Key, était un album de jazz à vos yeux ?
Alors, c'est un album de jazz d'abord parce que, comme je vous ai dit, c'est ce que je suis. Je pense, de par mon parcours musical, que je me définirais comme un jazzman. Mais après, l'autre volet, c'est que le jazz, pour moi, aujourd'hui, ne doit pas être vide de sens. C'est pas que des notes et c'est pas une performance artistique. Pas que. Bien sûr, c'est une performance artistique. Je pense qu'aujourd'hui, le jazz, c'est quelque chose de connecté, doit être connecté à quelque chose. Et moi, je suis connecté de par mon histoire à l'île Maurice. Et c'est pour cela que j'ai utilisé cette thématique pour écrire The Key.
Je vous posais cette question car en entendant le titre Mauritius, oui, on sort du cadre habituel du jazz, non ?
Bien sûr. Et c'est là où le mélange intervient. On a les codes, on va dire, du jazz. Et on entend l'instrumentation, déjà, est une instrumentation acoustique. On a un saxophone, une trompette. Voilà, donc c'est vraiment les codes du jazz. Hein. On imagine Miles avec son quintet de jazz. On a de l'improvisation, on a des plages qui ressemblent limite à du free jazz avec de l'interprétation libre. Mais le rythme fait qu'on rattache ce beau monde à l'île Maurice, donc de par le rythme.
Écoutons cette émanation de votre culture ancestrale. Mauritius, un extrait du premier album de Jerry Leonid intitulé The Key. Comment définiriez-vous le Sega, Jerry Leonid? Est-ce que c'est un rythme? Est-ce que c'est une tradition? Est-ce que c'est une culture hybride? Est-ce que c'est africain?
Eh ben, c'est tout ça à la fois, Joe. Et d'abord, bien sûr, artistiquement, c'est un rythme avec des accents très précis. Mais bien sûr, c'est aussi tout un pan de la culture mauricienne de par voilà, d'où ça vient. Donc, ça vient des esclaves, mais pas que. Un exemple, que les Réunionnais, par exemple, utilisent le même instrument que nous, qu'on appelle la ravane. Nous, chez nous, et chez eux, ils l'appellent tambour malbar. Et les malbars, chez nous, c'est les gens qui sont de descendance indienne. Par exemple. Voilà, c'est tout un mélange, ça fait partie de notre culture, c'est un rythme, et aujourd'hui, c'est une musique populaire omniprésente dans l'île Maurice.
C'est étonnant que vous parliez justement des liens qu'il y a entre les différentes régions d'Afrique australe, parce qu'au Mozambique, il y a une forme d'expression qui s'appelle le Tchéga.
Exact. Pour te donner un simple exemple, les gens de descendance africaine, comme moi par exemple, les Afro-Mauriciens, si je peux me permettre ce terme, péjorativement les appelaient les Mazambiques. On voit bien le lien entre Mozambique et Mazambique. Donc bien évidemment, il y a aussi beaucoup de descendance, donc beaucoup de filiation entre Maurice et Mozambique.
Donc on peut rapprocher le Sega du Maloya,
du Maloya,
du Guoka et du Bélé?
Non. Parce que ça ne vient pas de la même Afrique. On a une culture, comme tu l'as précisé, très australe, alors que le Guoka, le Bélé et même la Rumba, donc toute cette partie-là des Caraïbes, est très influencée Afrique de l'Ouest. Et c'est complètement différent dans le rythme. C'est bien sûr le même schéma. Alors pour être un petit peu technique, la musique d'Afrique de l'Ouest est très binaire dans sa conception et la musique d'Afrique australe est très ternaire. Donc on compte en trois pour les néophytes quand on est en ternaire, bien sûr, comme le nom l'indique, et on compte en deux ou en quatre quand la musique est en binaire. Merci.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de quadrille dans le Sega et dans le Maloya?
Non. C'est
parce qu'on rappelle, oui, les quadrilles, oui, c'est l'influence européenne d'une certaine manière.
Voilà. Alors ça, c'est chose très étonnante. À l'île Rodrigue, des gens qui dansent le quadrille avec un accordéon. Mais on pense, bien sûr, alors c'est très facile à expliquer si on suit bien le mouvement, c'est forcément une influence française qui a demeuré sur quelques générations, qui a fait que cette culture a perduré à Rodrigue, mais pas à Maurice, par exemple. On ne danse pas le quadrille à l'île Maurice.
Toutes ces musiques sont en tout cas le fruit de périodes sombres liées à l'esclavage, que vous évoquez, je crois, aussi d'une certaine manière dans The Other Side.
Oui, pour moi, c'est un problème très mauricien, on va dire, hein, pour la nouvelle génération mauricienne. C'est à double tranchant. C'est bien qu'on oublie, qu'on commence à s'éloigner de ce poids qui est l'esclavage et de toujours de se rappeler de cette commémoration. Donc c'est important, bien sûr, de commémorer, bien il ne faut pas oublier. Mais la jeune génération, elle, elle prend vraiment, c'est-à-dire qu'avec Internet, tout ça, la modernité, on oublie les racines africaines. Et moi, en tant qu'artiste, je dois incessamment rappeler, faire réfléchir là-dessus, à surtout à la nouvelle génération, d'où notamment les titres comme Black River Road sur mon premier disque, et notamment The Other Side. J'évoque un problème qui est, on va dire, étranger à l'île Maurice, donc c'est le problème des migrants dans la mer Méditerranée, mais c'est aussi pour aussi garder, faire vivre encore cette connexion que l'île Maurice a avec l'Afrique.
Et puis il y a un autre titre phare sur votre album, c'est Soweto Children. Quelle est l'intention de cette composition?
Donc, deux choses. Alors la première, bien sûr, encore une fois, rendre hommage à l'Afrique australe, donc là plus précisément l'Afrique du Sud, mais aussi on parlait de combat. Cet album revendique, parle de choses qui sont, on va dire, très engagées. Et Soweto Children, donc c'est juste un petit clin d'œil à ces enfants qui ont commencé une révolution en Afrique du Sud. Et on souvent, l'histoire omet ce petit détail. La révolution, on va dire, les émeutes de Soweto pendant l'apartheid ont commencé par des enfants à l'école qui ne voulaient pas qu'on leur interdise d'apprendre leur langue maternelle.
Vous êtes de surcroît accompagné par un guitariste béninois de grande valeur, hey, Lionel Weke. Comment vous êtes-vous rencontrés d'ailleurs tous les deux?
On s'est rencontrés à Paris à plusieurs reprises et nous avons un ami en commun, un bassiste béninois qui s'appelle Patrick Ruffino. Quand j'ai eu cette idée-là, donc on va dire je connaissais pas Lionel sur un plan, on va dire, personnel, et je me suis adressé à Patrick et il a fait le lien et on a parlé un petit peu au téléphone. Il m'a dit, écoute, je suis très occupé, bien sûr, mais si tu m'envoies le morceau, je vais te dire si je décide de le faire ou pas. Donc je lui ai envoyé le morceau et il a pris 5 minutes à me répondre, sans ça m'a fait plaisir. Et à partir de là, on s'est échangé quelques mails et il a enregistré sur le morceau.
Voici donc Soweto Children, Jerry Leonid dans l'épopée. Soweto Children, extrait de Source of the Ocean, l'excellent nouvel album de Jerry Leonide. Est-ce que vous voulez profiter des ondes internationales de notre antenne pour vous adresser à vos auditeurs mauriciens?
Oui, alors...
En créole ou en français ou en anglais, ce qui vous fait plaisir.
En créole, c'est toujours un plaisir de parler ma langue maternelle. Alors je leur dirai, pour ceux qui comprennent, comment s'intéresse-nous à la musique? Et il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger dans Maurice, soutenir un artiste local et surtout à God and Sense Critique. Et c'est comprendre aussi comment l'artistique peut évoluer dans Maurice. Et c'est le même travail qu'ils m'ont pu essayer de faire. Merci beaucoup.
J'ai presque compris. Vous venez d'envoyer vos mots à 9414 km de Paris.
Vive la technologie.
Exactement. Merci mille fois, Jerry Leonide.
Merci, Joe, pour ton invitation.
Je signale que la grande soirée de lancement de votre nouvel album aura lieu le 16 décembre au Sunside à Paris et que Source of the Ocean est d'ores et déjà disponible et sera du meilleur effet au pied du sapin de Noël.
C'est bien ça.
Est-ce que vous avez prévu des invités ou quelque chose de surprenant le 16 décembre prochain au Sunside?
Oui, mais pour cela, il va falloir venir parce que c'est une surprise. Voilà, donc je vous invite tous à venir le 16 décembre. Il y aura des invités surprises dans ce concert.
On n'en dit pas plus. En tout cas, félicitations.
Merci.
La semaine prochaine, à l'occasion du 50e anniversaire de la disparition d'Otis Redding, nous vous proposerons un portrait de ce géant de la soul music avec Nous y travaillons. Quelques archives épatantes, Nathalie Laporte et Pauline Leduc, œuvre de concert pour vous trouver des documents inédits. Croisons les doigts. D'ici là, passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.